Bonjour mon cher Jérôme et bonjour à vous tous qui nous faites l'amitié de nous rejoindre chaque semaine, le mercredi de 11h à midi, et rediffusion le dimanche soir à 20h pour notre rendez-vous littéraire. Alors aujourd'hui c'est l'avant-dernière émission de cette saison radio, une saison riche et intéressante. Dans cette émission, j'aurai le plaisir de recevoir Hélène Tavel pour son dernier roman intitulé Les Jardins de l'oubli. Il s'agit du tome 2 de la saga Betty Sinclair, un livre passionnant publié par les éditions Sorel et Stendhal. Nous écouterons et nous découvrirons avec joie et avec un immense plaisir la chronique de Nicole Skinazy-Teboul consacrée au mot jardin. Et après la pause musicale, jardin d'hiver évidemment, ça s'imposait, je recevrai Aurélie Di Pélisson pour son roman intitulé Ce que l'océan ne dira jamais, un joli titre et un beau livre, une belle histoire publiée par les éditions Héloïse d'Ormesson. Bonjour Hélène Tavel.
Patricia.
Bonjour Hélène. Et bienvenue sur Radio Judaïca Lyon. J'ai eu le plaisir de vous recevoir l'an dernier pour l'un de vos précédents livres qui s'intitulait oui. Rachel, la dernière lettre de mon amant. Aujourd'hui, c'est pour le tome 2 d'une saga passionnante, comme je le disais il y a un instant, que je vous accueille avec joie. Nous retrouvons un personnage très attachant, Betty Sinclair, historienne et enquêtrice très investie et compétente. Alors, je précise à nos auditeurs qu'il s'agit du tome 2, mais qu'il peut se lire indépendamment du tome 1, intitulé « La danseuse Exactement. Disparue hein ». C'est bien cela.
Tout à fait. C'est juste la même héroïne, en fait. Voilà. Ce sont des enquêtes différentes avec... Ouais. Le personnage principal, Betty Sinclair.
Voilà, exactement. Betty Sinclair, un personnage très attachant qu'on évoquera dans un instant. Alors, quelques mots pour vous présenter, vous, Hélène Tavel. Vous êtes née en Algérie, Algérie que vous avez quittée comme beaucoup d'entre nous. Votre enfance s'est passée à Dijon, mais c'est à Lyon que vous venez poursuivre vos études. Vous êtes journaliste, puis directrice de l'Office de tourisme de Grenoble, et puis vous avez fondé une agence de communication. Et vous exercez votre métier avec beaucoup de passion et un talent certain.
C'est gentil, merci beaucoup. Oui, je suis passionnée de l'écriture tout d'abord.
Oui.
Et c'est vrai que l'écriture m'a toujours tentée, puisque j'ai écrit mon premier roman à l'âge de 10 ans sur un cahier à gros carreaux. Voilà, c'est un thriller d'ailleurs.
Oui.
Et ensuite, ça ne m'a jamais quittée. Je suis une lectrice avant tout, je lis énormément et évidemment, l'écriture a abouti à ça, cette passion pour la lecture.
Et depuis 2020, vous avez publié pas moins qu'une dizaine de romans qui ont connu un vrai succès, puisque je vous suis sur Facebook évidemment comme beaucoup et je vois que vous participez à de nombreux salons, nombreuses rencontres, des séances de dédicaces et vous allez vraiment avec beaucoup de plaisir me semble-t-il, à la rencontre de vos lecteurs. Hein.
Exactement, j'adore ça, j'adore rencontrer les lecteurs. C'est vrai que quand on voit les ventes sur Internet, les chiffres, etc., c'est bien, c'est agréable de voir qu'il y a énormément de ventes, mais en même temps de rencontrer les lecteurs et les futurs lecteurs, de leur expliquer, de leur raconter les histoires, j'adore ça. Et c'est vrai que quand je fais des dédicaces dans les librairies ou les salons de livres, je suis intarissable. J'aime bien raconter des histoires, même quand j'ai 11 livres à raconter. Et c'est vrai que quand je propose de lire la quatrième de couverture, on me demande toujours de raconter moi-même l'histoire, et ce que je fais bien volontiers.
Ouais. C'est vrai qu'à une époque où le virtuel a pris une place importante dans nos vies, c'est toujours bien et c'est toujours réconfortant d'aller à la rencontre des vrais gens, d'avoir un vrai contact humain. Hein. Je pense que ça, c'est aussi ce qui vous fait vibrer. Hein. Oui.
Exactement, j'ai fait de très très belles rencontres avec des gens que je n'aurais jamais connus dans la vraie vie, on va dire, et qui viennent à moi. Alors ils sont ou de passage dans une librairie et puis tout d'un coup ils ont envie de me parler, et ce sont des personnalités complètement différentes, et voilà, je leur raconte les histoires. Alors beaucoup des gens qui sont férus de lecture, qui lisent énormément, ou d'autres qui ne lisent pas forcément, mais qui sont tentés par les histoires, qui sont souvent des leçons de vie, je l'avoue, et voilà, et du coup, ce sont vraiment des histoires.
Hein,
mais c'est vrai qu'il y a un peu de développement personnel dans chaque roman, avec des personnalités que je décris, des portraits de femmes fortes souvent, des histoires un peu qui nous entraînent dans un imaginaire positif, toujours, où tout est possible, en fait. Même s'il y a des embûches, tout est possible. Voilà. Donc j'aime bien me lancer dans ces histoires-là. Et du coup, je pense que ça saisit les lecteurs.
Voilà. Hélène, on vous entend assez loin. Est-ce que vous avez l'ampli, là? Non, parce que c'est un petit peu lointain, là.
Alors, pas du tout. J'ai pas du tout l'ampli.
Il y a un petit peu d'écho. Je pense que Jérôme va vous rappeler si ça vous ennuie pas. Raccrochez. On vous rappelle dans une seconde, hein. D'accord?
D'accord. Okay.
Voilà, je rappelle à nos auditeurs en attendant que nous sommes avec Hélène Tavel, avec qui nous allons évoquer dans un instant le tome 2 de la saga Betty Sinclair. Et ce tome 2 s'intitule Les Jardins de l'oubli. Donc je voulais rappeler un petit peu le parcours de cette auteure parce qu'elle a un parcours intéressant. Elle dirige une agence de communication après avoir été journaliste et après avoir dirigé l'office de tourisme de Grenoble, Grenoble où elle vit actuellement. Mais en fait, elle vit entre Grenoble et Lyon, Hélène Tavel, Grenoble où elle a fondé une agence de communication et comme je le disais, elle exerce son métier avec beaucoup de passion et un grand talent, mais ce qui ne l'empêche pas d'être aussi une auteure ou une autrice vraiment très prolifique puisque depuis 2020, elle a publié pas moins d'une dizaine de romans qui ont connu un grand succès. Et Hélène nous expliquait à quel point elle apprécie les rencontres avec ses lecteurs, les séances de dédicaces, les rencontres avec les lecteurs potentiels et les lecteurs qui ont déjà découvert ces histoires et c'est vrai qu'en quelques années, elle est devenue vraiment une romancière prolifique. On va poursuivre la discussion avec Hélène Tavel dans un instant, dès que Jérôme aura rétabli la communication qui n'était pas excellente et donc c'est toujours un peu frustrant pour nous et pour vous, auditeurs, de mal entendre le discours de notre invité. Donc je pense qu'on va l'avoir dans quelques instants. Alors je rappelle le titre de cet ouvrage, c'est donc Les Jardins de l'oubli et c'est le tome 2 de la saga Betty Sinclair. J'aimerais que Jérôme me fasse signe maintenant pour savoir s'il a réussi à retrouver Hélène Tavel pour qu'on puisse poursuivre notre échange. Hélène, vous êtes bien là?
Oui, je suis là.
Super, là on vous entend un petit peu mieux me semble-t-il. Hein,
d'accord.
Alors, Hélène Tavel, pour compléter votre portrait, parce que j'aime bien aussi présenter les auteurs à nos auditeurs, je voulais préciser que j'ai vu dans votre parcours que vous avez lutté contre le racisme et l'antisémitisme, hein, puisque vous êtes de confession juive vous-même, et vous avez été décorée de l'Ordre National du Mérite par Marek Alter. Expliquez-nous un petit peu dans quelles conditions cette décoration vous a été remise.
Eh bien, à l'époque, j'étais présidente du Centre culturel juif de Grenoble et j'ai milité contre le racisme et l'antisémitisme par différentes actions.
D'accord.
Notamment une table ronde dont on a beaucoup parlé avec des rédacteurs en chef de journaux, avec des figures littéraires et politiques à propos de la désinformation. Voilà, et donc du coup, c'est le préfet en fait qui m'a décoré de l'Ordre National du Mérite et c'est Marek Alter qui m'a remis,
qui vous a remis
la médaille.
La médaille, formidable. Je trouve que c'est important. J'avais noté cette décoration dans votre parcours et je trouvais que c'était intéressant d'en parler. Alors je le disais à nos auditeurs en vous attendant patiemment, qu'en quelques années vous êtes devenue une romancière prolifique. Quel a été le déclic pour vous? Parce que vous nous disiez que vous aviez toujours été une grande lectrice et vous avez toujours écrit, mais c'est vrai que dans votre métier les mots sont essentiels, vous les avez toujours maniés avec succès, mais l'écriture d'un roman c'est un autre exercice et j'imagine que cela correspondait à un besoin, une envie ancrée depuis longtemps en vous, non ?
Exactement, tout à fait. Voilà, j'avais, oui, comme je le disais, commencé par écrire un livre à l'âge de 10 ans.
Oui.
En fait, tout a commencé justement quand j'étais enfant. J'ai rencontré une dame d'un certain âge qui était en fait l'amie de Colette, l'écrivain Colette.
Oui.
Et elle avait gardé toutes ses lettres. Et moi, je me suis mise à lire ses lettres et je trouvais que c'était incroyablement bien écrit. Et du coup, je me suis dit, mais comment on peut écrire comme ça, raconter des histoires à travers une lettre? Et cette envie d'écrire m'a pris vraiment à ce moment-là, en fait. Et c'est là que j'ai essayé d'écrire un livre. Alors après, la vie a fait que j'écrivais un peu, pas en cachette, mais entre deux rendez-vous, etc., un peu comme ça, en catimini.
Et en fait, c'est avec le confinement que j'ai réalisé mon rêve, si j'ose dire, puisque du jour au lendemain, je me suis retrouvée sans rien faire pour la première fois de ma vie. Mmh. Et là, j'ai écrit un amour de confinement, qui est pendant 3 mois, donc un renfort de thé vert et de nuit blanche. J'ai écrit non-stop pendant 3 mois. Et donc, j'ai écrit ce roman. Et donc, quand il a été édité, en fait, on m'a demandé si j'en avais écrit d'autres. Et j'en avais écrit 3 autres que j'ai un peu relu, etc., pour les éditer. Et ensuite, j'en ai écrit un par an. Voilà.
Oui.
Et ce qui a été magique, ça a été le succès de mon énigme tirée de faits réels à partir de la vie de ma grand-mère, le livre Le Secret de Sarah, qui est édité à l'international et qui a eu un énorme succès puisqu'on en est, je crois, 600 000 exemplaires de vendus. Enfin,
incroyable.
Voilà. Donc c'est vraiment un beau succès.
Ouais. Une belle histoire aussi.
Et c'est grâce à ça, en fait, que du coup, je me suis mise à écrire un roman par an. Alors, j'aime bien écrire dans des genres littéraires différents, ce qui peut surprendre, c'est-à-dire que naturellement, j'écrirais plutôt des romances, mais ensuite, écrire un livre par an, ça demande un engagement particulier, de se plonger dans une histoire, et j'avais envie d'avoir des challenges, en quelque sorte, et de me dire, donc c'est comme ça que je suis arrivée à écrire un roman d'aventure avec la vie de Steve Barnes autour de la reine de Saba. L'énigme tirée de faits réels, Le Secret de Sarah. Rachel, la dernière lettre de mon amant, qui est une histoire d'amour. Un peu politique, etc. Tirée d'une histoire vraie, parce que j'en ai une histoire vraie. Et maintenant, les deux thrillers, donc ma saga Betty Sinclair, avec ces deux thrillers. Mais je perds jamais de vue mes engagements, c'est-à-dire que ce sont souvent... Alors, moi, je privilégie l'histoire, évidemment. Il faut toujours qu'il y ait du suspense.
Ouais.
Après chaque chapitre, hop, on attaque un autre chapitre, on est dans un autre univers, ça rebondit, enfin faut pas s'arrêter, faut avoir envie toujours de lire les pages supplémentaires, mais je perds pas de vue mes engagements. Et j'aime bien que mes histoires sont des histoires engagées, notamment dans Les Jardins de l'Oubli. Les Jardins de l'Oubli, c'est autour de la désinformation et de tout ce qu'on a, de tout ce qu'on nous inculque dans les médias.
Oui.
Et c'est un peu autour des fake news.
Du complotisme aussi.
De tout ce qu'on peut nous transmettre et qu'il faut pas forcément croire.
Exactement.
Voilà, c'est pour ça qu'en préambule de ma 4e de couverture, j'ai mis « Ne croyez pas tout ce qu'on raconte dans les médias. »
Ouais, exactement.
Et ça, vous voyez, on revient à mon engagement à l'époque de mon militantisme contre la désinformation. Voilà. Donc, et Les Jardins de l'Oubli, c'est un peu ça.
Alors, Les Jardins de l'Oubli, c'est donc le dernier livre publié par Hélène Tavel. Votre héroïne, Betty Sinclair, est historienne. Elle a la quarantaine, elle est juive. Son véritable nom est Rosenberg. On l'apprend dès le début de l'histoire. En fait, elle a repris le nom de résistant de son grand-père, qui s'appelait Rosenberg. Et il a choisi le nom de Sinclair. Alors, elle vit à Grenoble, où elle exerce son métier avec passion. Son amie Morgane, qui gère de main de maître une auberge sur l'île de Groix, en Bretagne, l'appelle pour résoudre un mystère. Une femme étrange se tient debout devant le café de la Jetée, c'est le nom de l'auberge de Morgane. Morgane l'accueille, un petit peu surprise, elle l'accueille dans son auberge et demande à Betty Sinclair de vite la rejoindre pour tenter de comprendre qui est cette femme et comment elle est arrivée sur cette île bretonne. Démarre alors une véritable enquête menée tambour battant par Betty Sinclair et son acolyte Morgane, qui seront bientôt rejointes par des personnages hauts en couleur et d'une efficacité redoutable. Alors j'ai pensé en vous lisant, Hélène Tavel, que vous aviez dû faire de très nombreuses recherches pour raconter les différentes étapes de cette enquête que vous nous racontez d'une façon trépidante.
Exactement. J'ai fait moi-même une enquête très importante. J'ai des remerciements à la fin.
Oui, tout à fait.
Je produis, c'est-à-dire que je me suis renseignée auprès de certaines instances, à la fois en Bretagne, à la fois dans les Émirats Arabes Unis, puisque il y a deux décors en fait.
Exactement.
Dans mon livre, au début, en effet, le café de la Jetée en Bretagne, à l'île de Groix, et ensuite, l'enquête emmène Betty et Laura, la juge. Dans les Émirats Arabes Unis, et j'ai inventé une île au large de Dubaï. Ouais. J'ai beaucoup aimé faire ça, mais il fallait que ça soit cohérent. Ouais. Voilà, donc tout ça avec l'aide de certaines personnes que je remercie à la fin, également avec l'aide d'un capitaine de police parce qu'il me fallait des éléments pour l'enquête, des éléments cohérents surtout au niveau de la police scientifique. Mmh. Et bon, comme elle évolue énormément, il fallait pas dire n'importe quoi.
Ouais.
Et voilà, pour que tout simplement ça ne heurte pas le lecteur qui s'y connaît. Voilà.
Alors...
Mais l'idée c'était vraiment donc de créer un thriller haletant et un roman engagé en même temps. En fait, il interroge en fait sur notre rapport à la vérité dans un monde dans un monde saturé d'informations où tout peut être brouillé, c'est-à-dire manipulé, détourné. Ouais. Et donc en fait, c'est un suspense avec chaque révélation, si vous voulez, se rajoute à un puzzle pour découvrir la vérité et qui est cette femme.
Voilà. Effectivement. Alors cette histoire, vous l'avez inventée, donc de toutes pièces, mais vous y avez glissé des faits, des personnages et des situations qui rappellent forcément au lecteur des événements et surtout un personnage réel.
Oui.
Mais c'est impossible d'en dire davantage pour ne rien dévoiler de l'intrigue, évidemment. Hein.
Exactement. Je n'ai pas voulu la nommer.
Non.
Je vous avoue que j'en mourrais d'envie.
Ah bah oui.
Voilà. Mais je n'ai pas voulu la nommer, d'abord parce que ce n'était pas essentiel en fait en soi.
Bien sûr.
Mais ça m'a beaucoup amusé. Et moi, j'ai toujours été passionnée. Vous voyez, avant de me lancer dans une histoire, je me demande un peu ce qui m'intéresse en fait à moi, avant de me lancer dans une histoire quand même qui va m'occuper pendant un an à raison de 8 heures par jour. Faut le savoir.
Bah oui, bien
donc
sûr.
Ça veut dire que quand même il faut que ça m'intéresse. Et moi j'aime bien ces fake news. Je sais pas, on dit souvent que Michael Jackson n'est pas mort, que Marilyn Monroe n'est pas morte, que voilà. Et donc ces histoires comme ça de fake news, ça m'intéressait.
Oui.
C'est à la fois de la désinformation, mais à la fois ça transporte l'imaginaire dans un monde un peu parallèle comme ça où tout ce qu'on nous dit est faux en fait et qu'il faut peut-être remettre en question en fait.
Exactement, les fake news, le complotisme, le phénomène des cold cases aussi. Que vous abordez dans cette enquête. Alors Betty Sinclair, votre héroïne, elle est à la fois historienne et enquêtrice, mais on a l'impression que, pour parler un peu trivialement, qu'elle ne lâchera rien jusqu'à ce qu'elle trouve la solution à l'énigme, parce qu'une autre, une autre enquêtrice aurait laissé tomber, si j'ose dire, depuis longtemps, mais elle va
exactement
jusqu'au bout.
Mais ce que j'ai aimé, c'est qu'en fait, rien ne prédestinait Betty Sinclair
bien sûr
à faire des enquêtes elle se retrouve toujours là par hasard en fait. Et là en l'occurrence comme dans La danseuse disparue le tome 1, elle s'est retrouvée propulsée dans une histoire abracadabrante et elle s'est plongée dans cette affaire. Mais en fait ça ressemble un peu à ce qu'elle faisait quand elle était étudiante ou quand elle est ou dans son métier d'historienne et de bibliothécaire. Puisqu'elle travaille dans une bibliothèque où elle est toujours obligée d'étudier longtemps avant d'aboutir à la vérité en fait.
Bien sûr, oui.
Et sauf que là, eh bien, elle est dans la vérité de plein pied, c'est-à-dire qu'elle prend des risques et elle a pas froid aux yeux, elle a peur de rien. J'aime cette personnalité de femme. En fait, rien ne l'a prédestinée à ça. Encore une fois, elle a 38 ans. Elle est toujours dans sa bibliothèque. Elle voit personne et tout d'un coup, paf, elle se retrouve plongée dans cette histoire et elle fonce dedans et voilà, et elle a peur de rien encore une fois et elle y va. Alors par contre, elle a une équipe autour d'elle.
C'est ça, oui.
Et ça, j'ai aimé.
Oui.
Parce que moi, j'aime bien les équipes, j'aime bien travailler avec d'autres gens. Et donc là, en l'occurrence, dans Les Jardins de l'Oubli, il y a un personnage qu'on n'a pas dans La danseuse disparue, qui est la juge Laura Berenbaum. Et donc, qui va mener l'enquête avec elle. Et elle en a besoin, en fait, parce que c'est une juge. Mmh. Et qu'elle a besoin de techniciens, comme elle a besoin d'un capitaine de police. Voilà.
Bien sûr, oui.
Et donc, ensemble, ça forme une alchimie exceptionnelle. C'est-à-dire qu'il y a l'intuition de l'une, il y a la méthode de l'autre, et ensemble, ça fait un tandem électrique, complice, capable d'aller personne ne les attend, et puis surtout de ressortir avec la vérité en fait.
Oui, exactement.
Toujours la vérité, la recherche de la vérité.
La vérité concernant l'inconnu à la robe blanche, comme vous la nommez, comme elle est nommée. Voilà. Elles vont même, Morgane et Betty Sinclair vont même lui trouver un nom, parce que l'appeler l'inconnu constamment, c'était un petit peu délicat. Voilà. Donc elles vont lui donner, lui attribuer un prénom, Jalna, et ensuite on va découvrir évidemment qui elle est. Alors effectivement, je voulais parler de ce travail d'équipe formidable que vous décrivez fort bien dans le roman. Tous les personnages qui gravitent autour de Betty Sinclair, chacun d'eux a un rôle à jouer. Elle a su fédérer et constituer une véritable équipe autour d'elle, au point qu'ils vont même tous les 10, ils arrivent à être 10 finalement, un petit peu partout hein, d'ailleurs, ils sont répartis un peu partout, et ils vont même finir par nouer des liens d'amitié entre eux, et ça c'est assez formidable, parce que on voit aussi que cette enquête va véritablement changer la vie de Betty Sinclair. Alors, on n'en dira pas plus, mais va-t-elle rencontrer l'amour à la faveur de cette enquête ? Eh bien, vous le découvrirez, chers amis auditeurs, en découvrant cette enquête et ce récit qui est vraiment passionnant. Hein.
Ah, je suis contente que vous l'ayez aimé, et voilà. Et donc, vous avez découvert vous avez attendu la fin pour découvrir.
Exactement.
Le secret, alors,
oui,
le
mystère, tout à fait, tout à fait. Il faut aller jusqu'à la fin, mais là, c'est votre talent de romancière, Hélène, hein, qui contribue à faire patienter le lecteur. Le lecteur qui va voyager avec votre héroïne, comme vous l'avez expliqué il y a un instant, de Grenoble à Abu Dhabi jusqu'en Corse. Le point de départ, c'est quand même l'île de Groix en Bretagne, une île que vous nous faites découvrir et qui a l'air assez jolie aussi, hein.
Oui, alors c'est drôle parce que des fois je ne sais pas pourquoi j'ai une idée comme ça. C'est-à-dire que, en fait, sur chaque roman, je plante un décor.
Oui.
Je commence par ça.
Mais c'est important.
C'est vraiment la première chose, c'est un décor. Parce que je suis persuadée qu'on n'a pas la même vie quand on habite New York, Londres, Grenoble, Lyon, Paris.
Ouais.
Et donc je plante un décor. Comme Rachel, la dernière lettre de mon amant, c'est à l'île de Paros. Là, c'était la Bretagne, l'île de Groix, donc c'était... l'endroit un peu où se réunit la team BSC, comme je l'appelle, comme je l'appelle, c'est-à-dire l'équipe de Betty Sinclair. Et c'est là que voilà, ils se réunissent, c'est le travail ensemble, etc. Donc ça m'intéressait de planter ce décor, et après les Émirats Arabes Unis avec Dubaï, que je connais bien dans le cadre de mon travail surtout, et qui pour moi ajoutait au mystère, parce que je pense que dans ces pays-là, à côté du bling-bling, il peut y avoir pas mal de zones d'ombre et de secrets cachés, notamment cette île où il y a en fait c'est dans cette île qu'il y a les jardins de l'oubli, parce
c'est
que
ça,
les jardins de l'oubli existent, ce n'est pas
exactement.
Qu'une... Mmh. Bah, j'ai voulu miser à la fois sur le mot oubli, c'est-à-dire on nous cache la vérité, etc. Avec la désinformation, et les jardins de l'oubli qui sont l'endroit en fait où se cache cette héroïne.
Oui, le secret de cette héroïne, l'inconnue à la robe blanche. Alors pour terminer, je voulais préciser à nos auditeurs qu'il y a de nombreuses références à la musique et au cinéma dans votre livre. Il y a d'ailleurs une playlist que vous nous proposez à la fin du roman.
Oui,
juste pour
j'aime bien faire ça parce que j'ai découvert ça.
Oui.
Parce que déjà, je trouve que dans la vraie vie, on est souvent porté par des airs, des musiques, des tubes ou même de la musique classique. Et je trouvais que c'était intéressant de dresser la playlist. Bah, on me demande souvent, mes lecteurs me demandent, ils me disent, est-ce que c'est votre playlist à vous, celle que vous entendez quand vous écrivez ? Et je dis pas du tout, c'est la playlist du roman, c'est-à-dire c'est les personnages qui écoutent ces musiques dans des ambiances différentes. Ça peut être dans l'ascenseur, ça peut être à l'île de Groix, ça peut être à Dubaï, voilà.
Exactement.
Et donc c'est ça. Et j'ai la particularité de faire des illustrations à la fin de chaque chapitre également. Et mes lecteurs aiment bien ça. Du coup, c'est devenu ma marque de fabrique.
Une marque de fabrique très intéressante. Juste pour l'anecdote et pour le sourire, on croise même dans votre récit Greta Thunberg, la militante écologiste qui s'est fait remarquer il y a quelque temps. Ça m'a fait sourire. Et puis c'est vrai qu'à la fin du roman, vous tenez à remercier tous ceux qui ont participé d'une façon ou d'une autre à cette enquête. Alors je précise donc une fois encore à nos auditeurs que même s'il y a quelques allusions au tome 1, la danseuse disparue des enquêtes de Betty Sinclair, c'est tout à fait possible de lire cette nouvelle enquête, Les Jardins de l'oubli, sans avoir lu le premier tome. Mais évidemment, je vous invite, chers amis auditeurs, à découvrir les deux tomes. Vous voyagerez grâce à Hélène Tavel. Merci infiniment, chère Hélène, d'avoir été avec nous.
À vous, Patricia.
aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci pour ces livres passionnants que vous nous proposez. Et comme vous connaissez l'émission, vous savez que Nicole Skinazi Toboul nous propose chaque semaine une chronique sur un mot. Donc je vous invite à rester avec nous encore quelques minutes pour écouter cette chronique, d'accord ?
Avec plaisir.
Merci Hélène. Bonjour
merci
ma chère
à vous,
Nicole.
Patricia, merci aux auditeurs de Radio Judaïque.
Je vous en prie.
De m'avoir écouté.
Je vous en prie. Bonjour ma chère vous. Nicole.
Bonjour Patricia et bonjour Hélène.
Bonjour.
Aujourd'hui, je vais vous parler du mot jardin.
Oui.
C'est un nom masculin dont l'origine remonte probablement au gallo-romain, hortus gardinus, qui signifie jardin entouré d'une clôture. Le second élément est issu de l'ancien bas-franc garde ou gardo, qui signifie clôture. Un jardin est un terrain plus ou moins étendu, planté de végétaux. Jardin français. Faire un tour au jardin. Jardin des Hespérides, jardin de fleurs, jardin botanique, beau jardin. Tout au fond du jardin, jardin des délices, jardin de buis, jardin zoologique, charmant jardin. Amateur de jardin, jardin des piqûres, jardin de roses, jardin public, jardin secret. Jardin d'Adonis, jardin suspendu, jardin de fruits, jardin climatique, entre cour et jardin. Et il y a le livre d'Hélène Pavel, Betty Sinclair, Les jardins de l'oubli. Une femme enlevée sur un yacht de luxe et abandonnée devant un café. Qui est-elle ? Betty, l'historienne, et Laura, la juge, ont enquêté. La vérité est ancienne et se niche peut-être dans un jardin luxuriant, tandis que se découvre un complot visant à effacer l'existence de cette femme au sein d'un ordre mondial qui pourrait bien s'en trouver remanié. Nous laisserons aux lecteurs le soin de découvrir comment se déploie le mystère et comment il se résout, lui laissant le cœur battant et bouleversé d'émotions, rempli d'inquiétude et de cette joie secrète et étrange qui lui sera offerte comme le cadeau que laissent les livres réussis.
Les livres réussis. Un joli jugement de la part de Nicole, n'est-ce pas Hélène ?
Magnifique, merci infiniment.
Merci Nicole, merci pour cette chronique et merci à vous chère Hélène Tavel pour cet échange chaleureux et pour les livres que vous nous offrez, des livres parfaits pour l'été. Hein. Donc j'invite vraiment nos auditeurs à les découvrir.
On peut lire sur la plage,
ouais,
exactement. Dans l'avion, dans le train.
Ouais, un peu partout. Merci chère voilà. Hélène et rendez-vous pour le prochain livre, hein, je l'espère.
Ben, le tome 3.
Et
le
ben
tome
voilà.
3 de Betty Sinclair.
Ah très bien, il est déjà en route ?
Il est en route, oui. J'ai déjà écrit environ 150 pages.
Ah,
et
super.
Ça va s'appeler La vérité sur l'affaire Deborah Neumann.
Oh là là, d'accord, la vérité sur l'affaire Deborah Neumann. Eh bien, on se retrouve...
Je pense que ça va vous plaire.
Ah, certainement, oui. Eh bien, on se retrouve très vite pour ce tome 3, Hélène, d'accord ?
D'accord, avec plaisir.
Merci
à
vous.
À tous.
Et passez un bel été, à très bientôt.
Merci,
au revoir.
Merci, vous aussi.
Merci,
au revoir,
Hélène.
Au revoir.
Allez, une petite pause musicale avec la version de Kerenan de Jardin d'hiver, cette magnifique chanson interprétée très joliment par Henri Salvador et que je dédie à mes fils qui aimaient particulièrement cette chanson.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère.
Ma robe à fleurs sous la pluie.
Merci de nous rejoindre pour la suite de votre émission consacrée à la littérature chaque semaine. Vous le savez, j'ai le plaisir et le privilège de recevoir des auteurs. Et aujourd'hui, dans la deuxième partie de cette émission, c'est une auteure qui m'a été recommandée encore une fois par Florence Herlemann, une romancière de talent également, que j'ai le plaisir de recevoir. Bonjour Aurélie Di Pélisson.
Bonjour Patricia.
Bonjour.
Merci.
Bonjour chère Aurélie. Je suis ravie d'avoir été conseillée par Florence Herlemann parce que ses conseils de lecture sont toujours très judicieux. Et je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui parce que vraiment je suis particulièrement heureuse de vous accueillir aujourd'hui sur notre antenne pour faire découvrir aux auditeurs de Radio Judaïque à Lyon votre livre intitulé Ce que l'océan ne dira jamais. Un livre paru il y a quelques semaines aux éditions Héloïse d'Ormesson, une maison d'édition que j'aime particulièrement. C'est votre troisième roman, Aurélie, hein ?
Oui, tout à fait. Mais c'est le tout premier publié chez Héloïse d'Ormesson.
Voilà, oui.
Donc je suis très heureuse.
Ah oui, mais vous pouvez l'être parce que vraiment, alors une très belle maison d'édition, évidemment, je le dis à chaque fois que j'ai le plaisir de recevoir un auteur édité par Héloïse d'Ormesson, mais aussi parce que votre livre est absolument formidable et on y reviendra dans un instant. Mais je tenais à vous le dire en préambule. Alors, quelques mots pour vous présenter, Aurélie. Vous êtes prof de lettres en collège et vous vivez dans le sud, à Aix-en-Provence, je crois.
Oui, tout à fait. Alors là, je viens d'obtenir ma mutation au lycée, donc j'entame une nouvelle carrière à partir de septembre.
Ah, très bien.
À Aix-en-Provence.
À Aix-en-Provence toujours, mais dans un lycée formidable.
Oui.
Un lycée donc où les élèves pourront découvrir vos talents de romancière également. Vous avez fait vos études à Grenoble, ce qui vous fait un point commun avec mon invitée précédente, Hélène Tavel, qui vit à Grenoble, elle. Et puis, vous avez poursuivi vos études à l'université d'Aix-en-Provence, après avoir passé votre enfance dans les Hautes-Alpes. Et c'est le décor, les Hautes-Alpes, c'est donc le décor que vous avez choisi pour le récit passionnant que vous nous proposez. Pardon. Alors, comment présenter cette histoire ? Ça a été un véritable coup de cœur pour moi et pour beaucoup de lecteurs, je crois, tant pour la profondeur et la richesse des personnages que vous nous présentez, que pour la qualité et la beauté de votre écriture. Vraiment, je vous le dis très sincèrement, j'ai beaucoup aimé votre livre. C'est une histoire inspirée de votre histoire familiale, je crois, hein.
Oui, tout à fait. C'est peut-être pour cela qu'elle est chargée particulièrement de d'âme au pluriel et puis de toute la lumière que j'ai essayé de faire surgir.
Oui,
voilà,
je le crois, oui.
Et certaines ténèbres.
Ouais, je le crois aussi. Alors, comment dire à nos auditeurs de quoi il s'agit ? En fait, votre héroïne Zélie et son frère Jean vont quitter leur petit village natal des Hautes-Alpes. Nous sommes à la fin des années 1899-1900. Et c'est pour rejoindre leurs deux frères aînés, Georges et Alfred, qui se sont éloignés d'eux pour aller s'installer à San Francisco. San Francisco, où ils viennent d'ouvrir un hôtel qu'ils ont appelé le Guillaume Tell. Et là aussi, c'est une vraie histoire, c'est la vraie histoire de vos aïeux.
Absolument, oui, tout à fait. Alors ça remonte à la branche paternelle, donc c'est au niveau de mon arrière-grand-père paternel. Trois de ses frères et une de ses sœurs sont partis en effet en Californie, à San Francisco, et ont pu ouvrir un hôtel qui s'est appelé le Guillaume Tell. Voilà, c'est tout ce que je sais. Après, tout le reste, c'est de la fiction.
C'est de la fiction.
Mais en tout cas, voilà, je suis partie de cette base-là qui m'a vraiment interpellée, notamment par rapport à l'époque. Je me suis vraiment demandé comment il était possible que une famille très pauvre, paysanne, laisse partir trois de ses enfants et surtout une jeune fille en fait.
Et oui, c'est
qui s'appelle Marie dans la vraie vie.
Dans la vraie vie.
Et voilà, tout cela m'a fascinée et j'ai voulu en faire quelque chose.
Mais le lecteur également est fasciné en découvrant cette histoire, l'histoire de cette fratrie qui va vraiment quitter son petit village des Hautes-Alpes pour découvrir un monde complètement nouveau et un monde qui va s'ouvrir au XXe siècle. Le rêve américain n'est pas tout à fait le même pour tout le monde. Hein. Les deux frères qui sont partis les premiers vont donc ouvrir cet hôtel à San Francisco, mais pour le petit frère Jean et pour Zélie, donc la jeune sœur, c'est tout à fait autre chose. Ils ont d'autres idées, ils ont d'autres ambitions et d'autres rêves finalement.
Oui, absolument. C'est-à-dire que Alfred et Georges ont peut-être davantage souffert de la misère oui. matérielle qui oui. était la leur dans le champ de sort à cette époque-là. Et ce qui les intéresse, ce qui est leur force à eux, c'est de vouloir réussir, oui. justement, avoir une réussite financière, oui. matérielle, oui. sociale.
Oui.
Donc, ils vont tout mettre en œuvre de là. Jean et Zélie, eux, je pense, en tout cas c'est comme ça que je les ressens, eux souhaitent se déployer eux-mêmes, c'est-à-dire peu importe la réussite matérielle, peu importe le métier, l'argent gagné, eux ce qu'ils veulent c'est réussir à être ce qu'ils doivent être, c'est-à-dire des personnes qui écrivent.
Voilà, l'écriture, c'est vraiment ce qui les fait vibrer. Alors, chacun a son parcours. Pour Jean, ce sera beaucoup plus rapide parce qu'il est, volontaire et il s'affirme. Alors que Zélie, évidemment, en tant que femme à cette époque, elle ose beaucoup moins. Elle a du mal à s'affranchir un petit peu des conventions et à s'affranchir du regard de ses frères même.
Hein. Oui, tout à fait. Il est certain que pour Jean, les choses sont claires dès le début, oui. avant même qu'il parte oui. aux États-Unis. Il sait qu'il veut être journaliste. Pour Zélie, elle aime écrire plus que tout, mais elle ne se l'autorise pas, parce que le rôle est déjà pris, la place pour elle est déjà prise, pense-t-elle, en tout cas dans un premier temps, par son frère. Donc elle a du mal à se trouver justement une place parmi ses trois frères, entre oui. ses deux aînés qui sont des entrepreneurs, qui sont des personnalités voilà, singulières et très volontaires, et son frère Jean qui incarne en fait ce qu'elle voudrait être elle aussi.
Oui, exactement. Presque au début du livre, j'ai noté un passage dans lequel Jean se confie un petit peu. Il dit à sa sœur, « Depuis qu'on est arrivé, j'écris tous les soirs, je note ce qu'il me reste des histoires qu'on m'a racontées au cours de la journée et qui me semblent dignes d'intérêt. Petit à petit, j'ai compulsé plusieurs dizaines de portraits et il y a 3 mois environ, juste avant la Toussaint, j'en ai envoyé certains au journal, le franco-californien, juste pour voir. Je me suis dit qu'en attendant de maîtriser complètement notre nouvelle langue, je pourrais continuer déguiser ma plume française. » C'est ainsi qu'il avoue à sa sœur qu'il a une ambition très précise, très, très claire. Il veut travailler en tant que journaliste et il a tout fait pour y arriver.
Oui, absolument. Et Jean a un but très clair et, oui. et il n'en dérogera pas, quitte à se fâcher avec ses frères.
Exactement, mais, parce que... Oui, je vous en prie.
Mais il est vrai que Jean a quand même une fierté personnelle et il attend d'être ouais. sûr avant ouais. d'en parler à sa sœur et à ses frères.
Oui, exactement. Et ses frères qui lui proposent de travailler, comme à leur sœur d'ailleurs, ils lui font la proposition, oui. de travailler au sein de l'hôtel, non seulement parce que ça les arrange évidemment, mais aussi pour leur offrir une possibilité de s'insérer aussi dans cette nouvelle société à San Francisco. Et il explique pourquoi il refuse de travailler à l'hôtel, alors que Zélie accepte, hein, évidemment, contrainte et forcée un petit peu. Et il explique qu'on a envoyé valser tous nos repères. Alors, si j'avais commencé à travailler avec vous à l'hôtel, dit-il à ses frères, je ne suis pas sûr que j'aurais eu le cran d'en sortir. Je parle du confort et du cadre que cela offre. Peut-être que j'aurais préféré la facilité. On voit que c'est un véritable combat contre lui-même qu'il a mené quand même. Hein.
Oui, absolument. Et il me semble en cela que ça fait des parallèles avec ce que nous vivons toutes oui. et tous dans, oui. dans nos vies. Parfois, il est difficile en fait de sortir d'un cadre qui ne nous convient plus, mais dans lequel on a quand même quelques conforts, plutôt que de, ouais. de prendre le risque de tout changer.
Ouais, exactement.
Et Jean est confronté effectivement à ça, et je pense qu'il a l'intuition en effet que s'il commence à s'installer à l'hôtel avec ses frères, il n'ira jamais ouais. Vivre ce rêve qu'il ouais. anime, qui est celui du journalisme d'investigation.
Ouais, voilà. C'est vrai. Et pour autant, on voit que Zélie, qui a emprunté un autre chemin, va y parvenir. Donc, ce sont deux visions différentes, mais finalement complémentaires.
Oui, tout à fait. Et puis, Zélie va y parvenir parce que Jean va aussi l'aider en cela. Elisabeth également, la fille donc, du patron, ouais. Du rédacteur en chef du journal sur lequel travaille Jean.
Jean, oui.
Et puis Zélie va aussi y parvenir parce qu'elle va terriblement souffrir à un moment donné de sa vie et qu'elle n'aura d'autre choix si elle veut se relever que de se relever en pleine lumière.
Ouais. Ah, c'est vraiment un roman magnifique où on entend la voix de chacun des personnages qui s'expriment. Et puis, il y a bien sûr au cœur de ce roman le récit du naufrage tragique d'un paquebot, le Princesse Sophia. Alors, contrairement au Titanic, le Princesse Sophia, on en a moins entendu parler. On comprend pourquoi, parce que c'était juste en octobre 1918, la fin de la guerre. Le bateau canadien va percuter un iceberg en Alaska. Les secours ne vont jamais venir puisque des vents glaciaux et une tempête va barrer l'accès. Alors après, il y a eu un certain nombre de prises de position qui laissent entendre que le sauvetage n'a pas été bien organisé, si j'ai bien compris. Hein.
Ça a été une situation, enfin un événement effectivement digne, je pense, des plus grandes tragédies
oui,
antiques.
Oui, vraiment.
Dans le sens où rien ne laissait présager une telle tragédie lorsque le Princesse Sophia a commencé son retour vers Vancouver, parce que c'était sa destination,
oui.
En partance de Skagway. Le temps était au beau fixe et tout était bien. Et puis, effectivement, une tempête de neige s'est soulevée brusquement, a pris tout le monde de court, et le bateau, effectivement, a heurté le récif de Vanderbilt, donc dans le canal Lynn, au large de l'Alaska.
Oui.
Et à ce moment-là, il n'a plus été possible de sauver les passagers, ni les membres d'équipage, ouais. Bien que 8 navires quand même
oui.
Se soient rendus sur les lieux très très vite.
Oui.
Mais tout a été très compliqué. Les câbles étaient coupés, les communications ont été extrêmement difficiles à maintenir. Et effectivement, rien de tout ce qui a été tenté, et Dieu sait qu'il y a des choses ont été tentées, n'a pu sauver le moindre des passagers.
Ouais. Et c'était seulement quelques heures après le départ de ce bateau qui emmenait 353 passagers, plus les membres de l'équipage. Hein, donc, un nombre de victimes.
On n'est même pas tout à fait certain du nombre exact de passagers, parce que, notamment dans les membres d'équipage, faisaient partie donc du contingent des jeunes, notamment des jeunes asiatiques qui n'étaient pas forcément répertoriés sur les listes. Donc on n'est pas tout à fait certain, mais c'était au moins 353 passagers, en effet.
Ouais. Et donc cette tragédie est passée un petit peu est tombée dans l'oubli compte tenu du contexte historique du moment, parce que le monde se réjouissait de la fin de la guerre et on ne pouvait pas en même temps pleurer toutes ces victimes. Et Zélie, votre héroïne et vous-même, vous avez tenu à refaire vivre tous ces personnages, leur redonner une voix, leur redonner une vie malgré la tragédie.
Oui, c'est en tout cas ce qui a animé l'écriture de ce livre.
De ce livre.
Pour moi, c'était de rendre hommage et d'offrir un tombeau littéraire à toutes les personnes qui n'ont pas pu être retrouvées, qui n'ont pas à ce jour-là de tombe, et les faire connaître au plus grand nombre aussi, parce que j'ai découvert en faisant des recherches sur ce naufrage, donc qui a touché ma famille puisque l'un de mes arrière-grands-oncles est mort sur le
bateau.
Voilà, faisait partie des passagers.
Ouais.
Donc j'ai découvert en m'intéressant à ce sujet des vies absolument extraordinaires, des familles incroyables. Et vraiment, voilà, il me tenait à cœur de pouvoir partager tout ça avec les lecteurs d'aujourd'hui.
Ouais. Voilà. C'est vraiment une mission accomplie, une mission particulièrement réussie. Aurélie Di Pélisson, vraiment, ce livre m'a passionnée, m'a bouleversée. Vous rendez hommage à tous ces personnages. Et c'est vrai qu'on se dit que dans ce roman et dans votre parcours littéraire, l'histoire familiale et l'histoire avec un grand H, comme on a coutume de dire, se rejoignent. Et le résultat est absolument magnifique.
Mais je vous remercie beaucoup. Je suis très touchée. Merci infiniment.
J'ai relevé une phrase dans votre livre, une phrase d'Anna Karénine qui ouvre le roman de Tolstoï. Toutes les familles heureuses se ressemblent, chaque famille malheureuse l'est à sa façon. Je crois que cette simple phrase que vous rappelez résume parfaitement l'objet de cet ouvrage, Aurélie.
J'ai essayé en tout cas de rendre cette histoire la plus singulière et la plus universelle possible pour que chacun puisse s'y retrouver aussi.
Ouais.
Et voilà, les mots résonnent pour chacun des lecteurs.
Ouais, tout à fait. Un roman sur la quatrième de couverture, il est écrit « Ce que l'océan ne dira jamais » est un roman d'initiation et d'aventure qui brosse le portrait complexe d'une époque et d'une condition, celle des femmes confinées à des rôles subalternes. Refusant cette fatalité, affirmant le droit d'exister par ou pour elles-mêmes, Zélie érige la fiction en arme ultime contre l'indifférence et l'oubli. C'est aussi ce que vous faites à travers ce roman, à travers même votre enseignement, en collège et puis bientôt en lycée, Aurélie. Hein. C'est aussi ce que vous faites chaque jour.
C'est ce que je m'efforce de faire, en tout cas, oui, ouais. Tout à fait. Je crois profondément, parce que les mots m'ont sauvée à plusieurs reprises dans ma vie, je crois profondément au pouvoir incroyable de la littérature, des textes, des histoires, des récits. Voilà, pour moi, c'est toute ma vie et donc je ne peux que essayer, autant que faire se peut, de le transmettre et essayer de le dévoiler. Voilà.
Je suis très émue parce que vous venez de nous exposer, Aurélie, parce que j'ai souvent dit moi-même, je fais un aveu à nos auditeurs, que les livres m'ont sauvé la vie. Et je trouve que voilà, cette phrase en écho à la vôtre me touche particulièrement. Et on ne dira jamais assez à quel point les livres sont importants dans la vie, celui-ci particulièrement. Un mot peut-être sur ce titre que vous avez choisi, que j'ai trouvé particulièrement évocateur et beau, à la fois évocateur et beau, ce que l'océan ne dira jamais, vous le dites.
Écoutez, je vous remercie infiniment. Alors, ce titre, je le dois à mon éditrice, que je remercie beaucoup. Oui. Nous avions beaucoup de difficultés à passer de mon titre de travail au titre que porterait ce livre.
Oui.
Et c'est vraiment... Alors, je trouve ça merveilleux parce que je suis très attachée au travail d'équipe.
Ah oui.
Et pour moi, justement, le métier d'éditeur... prend tout son sens et toutes ses lettres de noblesse justement dans l'accompagnement aux auteurs. Et donc je suis très 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 heureuse que ce titre soit le fruit de notre travail commun, voilà, à mon éditrice et à moi-même.
Ouais, un travail d'équipe, ce que l'océan ne dira jamais, un livre bouleversant et magnifique qui revient sur une page d'histoire, une page historique importante et qui évoque également votre histoire familiale qui nous touchera tous évidemment. Ce que l'océan ne dira jamais, c'est donc signé Aurélie Di Pélisson. Merci infiniment Aurélie d'avoir été avec nous aujourd'hui pour présenter ce magnifique roman, ce magnifique récit, et j'espère avoir l'occasion de vous lire à nouveau très prochainement. Merci à vous.
Merci infiniment Patricia et merci à tous les auditeurs.
À très bientôt Aurélie.
Bonne journée. À bientôt.
Bonne journée. Bel été à vous. Au revoir.
Merci beaucoup à vous aussi.
Merci, au revoir. Ce que l'océan ne dira jamais, c'est donc le titre de ce livre magnifique dont je vous conseille la lecture. Et puis je vous rappelle également le titre du livre de ma première invitée de cette avant-dernière émission de la saison radio sur Radio Judaïque à Lyon, Les Jardins de l'oubli, donc deuxième tome de la saga Betty Sinclair. Et on attend le tome 3 pour très bientôt, puisque c'est ce qu'Hélène Tavel nous a confié. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour la toute dernière émission de cette saison. Bonne lecture à vous et à très vite. Au revoir.